7h10 sur Aligre FM 93.1. Nous sommes dans Voix contre oreille, dernière émission de l'année. Peut-on faire confiance aux sondages? Comment fabrique-t-il l'opinion? Les sondages n'avaient-ils pas prévu les votes contestataires autour du Brexit, de Trump notamment? Comment cela se fait-il? Et puis, que l'avenir nous réserve-t-il? Et puis, est-ce que ne va-t-on pas bientôt tomber de l'armoire une nouvelle fois suite aux prochaines échéances électorales? Une émission en partenariat avec l'association Pour une Constituante.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association Pour une Constituante.
Comme moi, que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Voilà, toute l'équipe, la fine équipe est réunie autour du micro. Bonjour Antonin.
Bonjour Michel.
Bonjour Paul.
Bonjour à tous.
Et bonjour Ismaël.
Et bonjour Michel.
Donc Ismaël Merighetti, donc auteur de la chaîne Fast and Curious, hein, qu'on retrouve chaque mois.
Sur YouTube, deux fois par semaine maintenant même. Une fois toutes les deux semaines, pardon.
Une fois toutes les deux semaines, ouais. Voilà. Et donc, du coup, on a une vidéo de retard, mais on va essayer de rattraper ça l'année prochaine. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode numéro 10.
C'était le numéro 10.
Du 10. Doit-on encore faire face au sondage, n'est-ce pas, Antonin?
Oui, alors, dans le cadre de l'émission de l'association Pour une Constituante, on s'est dit que les sondages, ça serait un bon sujet parce que ils ont vraiment une grosse implication dans le processus démocratique. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dont on va pouvoir discuter aujourd'hui, c'est qu'il y a, dans la question des sondages, il y a deux dimensions. Alors oui, le lever ce matin, c'était très dur. La voix, là, je vais faire ce que je peux, mais à la voix du malade.
Ah bah oui, c'est la dernière de l'année, on est tous plus ou moins malades, mais on va y arriver.
Donc deux dimensions. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a une dimension déjà stratégique? Il y a une volonté politique peut-être d'incliner le débat, l'opinion dans un sens, avec après peut-être un retour de bâton quand ça accroche pas. Et de l'autre côté, une autre dimension qui serait, en fait, les sondages sont peut-être aussi un symbole encore du déracinement de la politique et de la population, c'est-à-dire que est-ce que même les méthodes d'échantillonnage maintenant seraient mal conçues et ignorent aussi les sous-ensembles de la population, qui sont déjà exclus de plein de choses, mais qui sont même exclus des échantillonnages. Alors ça serait plutôt une composante non volontaire de ce qu'on voit. Alors forcément, c'est comme d'habitude, il y a un juste milieu, je pense que c'est un mélange des deux phénomènes et ça va être un peu toute la discussion qu'on aura aujourd'hui.
Ok, ça sera notre thème d'aujourd'hui. Alors Ismaël, donc, qu'est-ce qui t'a amené à traiter ce sujet?
Alors il y a deux choses. La première, c'est une révolte de long terme personnelle qui a commencé en fait il y a quelques années avec l'avènement des chaînes d'infos en continu qui ont fait des sondages, une information politique et qui ont fait des sondages finalement le bras armé du journalisme politique. Ça a commencé sous Sarkozy, je pense, sous la mandature Sarkozy, avec ce qu'on a appelé les codes de popularité qui tombaient quasiment tous les jours ou tous les deux jours et qui influençaient l'opinion publique. Pour le coup, et la façon de commenter l'action politique. Ça s'est poursuivi avec la mandature de François Hollande et ses terribles codes de popularité, qu'on pourrait quasiment appeler des prophéties autoréalisatrices. Et donc ça, voilà, c'était déjà une première révolte personnelle en tant que journaliste de voir que les sondages devenaient une information et ne servaient plus juste à appuyer quelque chose, mais devenaient une réelle information. Et puis la deuxième motivation pour moi de faire cette vidéo à ce moment-là, ça a été des nombreuses surprises électorales de ces derniers mois. Ça a commencé, vous l'avez dit, avec le Brexit et puis Donald Trump au mois de novembre. Hein, pour rappel, le 7 novembre, c'est-à-dire la veille de l'élection, le lundi 7 novembre, le Huffington Post, qui est un site influent aux États-Unis et même mondial, donnait les chances de Trump de gagner l'élection présidentielle à 2%. Et puis 24 heures plus tard, il était élu président des États-Unis. Donc voilà, c'est cette volonté pour moi là de faire cette vidéo pour expliquer un petit peu pourquoi les sondages soit se trompaient, soit pourquoi on leur accordait une telle importance.
Voilà, alors donc Paul nous fera tout à l'heure un petit récapitulatif historique de l'usage des sondages. Antonin, tu nous en parleras aussi.
Oui, on va essayer peut-être de revoir ce qui s'est passé au niveau de l'élection de Trump. Essayer de voir aussi qu'est-ce qui a pu changer au cours des années en termes de... Bon, on pourra en discuter, mais en termes de méthodes statistiques, on va pas aller dans le gros détail, mais il y a des évolutions sociétales aussi dans l'usage du téléphone notamment. Dans l'usage de pas mal de choses qui ont rendu l'échantillonnage aléatoire plus compliqué. Et donc toute la question aujourd'hui, c'est de trouver... Chaque méthode est toujours biaisée, en fait. Par exemple, ça va être biaisé sur, par exemple, qui utilise le site sur lequel on fait l'enquête. Ben, on aura un biais parce qu'on aura la sous-population des gens qui vont sur le site. Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir plein de méthodes et d'essayer aujourd'hui de trouver la méthode la plus globale, quoi. C'est un vrai défi, quoi.
Ok, alors donc on va, le mieux c'est d'écouter la vidéo.
Oui,
alors les vidéos, pour ceux qui connaissent pas Fast and Curious, quand même, on va...
Il y en a encore visiblement.
Terrible tragédie. Encore, probablement pas parmi les auditeurs, parce que donc chaque mois on relaie tes petites chroniques. Hein, on a pas mal parlé donc de l'élection américaine, puisque tu t'y étais intéressé. T'as fait un épisode donc sur Trump.
Un épisode sur Hillary Clinton aussi, voilà. sur sa capacité à mentir et à travestir la vérité.
Voilà, la dernière qu'on écoutera peut-être plutôt en janvier, ça c'est sur la question de l'assistanat.
Ouais, qui risque d'être un thème de campagne utilisé par la droite probablement, c'est dans le programme de François Fillon, des gros points de son programme c'est donner de la valeur au travail par rapport aux allocations familiales, bon voilà, un thème récurrent d'une certaine droite depuis maintenant des décennies en fait, ce mythe de l'assistanat, et je me suis intéressé, on en parlera à la rentrée, mais je me suis intéressé aux chiffres précis de cette réalité-là pour savoir si on était dans le cliché ou dans la réalité avec l'assistanat en France.
Voilà, et donc chaque chronique, c'est 4-5 minutes.
Voilà, deux vidéos sur YouTube qui dressent le portrait de grands thèmes d'actualité de manière un petit peu divertissante et un petit peu décalée parfois, j'espère.
Eh ben, on y va.
Je suis contre les sondages.
Contre les sondages.
Et dans le cas d'un sondage, est-ce que vous accepteriez de répondre ou non ?
J'accepterais de répondre, mais je trouve que les sondages sont faux.
Donc en fait, vous n'accepteriez pas de répondre ?
Non.
Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle sondage, cette drogue dure à laquelle sont accros les politiques, les médias, et aussi un peu nous, hein, soyons honnêtes, les sondages, c'est comme l'horoscope. On sait que c'est pas super vrai, mais on lit quand même, et le pire, c'est qu'on est un peu content si c'est bon. Eh bien, même logique pour les sondages, qui n'engagent finalement que ceux qui y croient. Problème, ces derniers temps, la boule de cristal semble un peu fissurée. Brexit, Trump et François Fillon, l'homme qui peut coiffer ses sourcils, sont autant d'échecs des sondages. Comme on peut le voir sur ce joli graphique, 27 sondages en 3 mois sur la primaire de droite. Alors Fillon, c'est la dernière courbe, la courbe rouge. Il n'a pas été placé une seule fois en tête.
Loser.
D'où une question simple, les sondages, réalité ou mascarade ? Allez, on commence par l'exemple parfait qui illustre les excès et les défauts des sondages. Alors, c'est une couverture du Nouvel Obs, qui date un peu, hein, octobre 2013, et que j'ai retrouvé sur le très bon site d'analyse des médias, Acrimed. On va mettre la une en grand parce que c'est un pur chef-d'œuvre. Voilà, en gros, un chiffre, 24%, qui ferait du FN le premier parti de France. Et au cas où on n'aurait pas bien saisi la subtilité, le journal nous précise que c'est le sondage qui fait peur. Honnêtement, on dirait une parodie, hein, mais c'est bien vrai. Et d'ailleurs, au passage, comme tout ça n'était pas assez racoleur, ils ont rajouté un petit bandeau en haut à droite, juif et musulmans, histoire d'une déchirure.
Quelle indignité.
Premier constat, attention, ça va dénoncer méchamment, les sondages, c'est pas une science. Et celui-ci nous le montre bien comme il faut. Déjà, il présente un certain nombre de problèmes techniques. Alors, comme tous les sondages, il essaye de prendre un échantillon représentatif de la population, environ 1000 personnes, censé illustrer la diversité des Français en âge, sexe, lieu de résidence ou catégorie socio-professionnelle. Sauf que les sondeurs, malgré tous les outils qu'ils utilisent et qu'ils gardent secrets, ils ont du mal à reproduire parfaitement la sociologie française. Notre sondage, là, par exemple, il est fait par Internet, comme c'est de plus en plus le cas. Hein. Ça coûte moins cher que de passer 20 000 appels ou pire, de faire du porte-à-porte. Bon, eh bien, sur Internet, on a affaire à un public un peu particulier, parce que caché derrière son écran, on se laisse un peu plus aller à des opinions extrêmes, puisqu'il n'y a personne en face de nous pour nous juger.
«
Et puis sur internet, généralement, ce sont des gens qui ont laissé leurs adresses mail pour qu'on les sonde. Donc c'est des gens intéressés par la politique, avec des opinions plus fortes que la moyenne. De fait, les résultats sont un peu biaisés. Et à ce propos, il faut ajouter une constante que les sociologues remarquent depuis des années, c'est que dans les sondages, les gens diplômés sont plus représentés que dans la réalité. En partie, bah ouais, parce que les populations très pauvres sont souvent injoignables.
La logique.
Et les failles méthodologiques s'arrêtent pas là. Dans ce merveilleux sondage, où on demandait donc aux gens s'ils étaient prêts à voter FN aux prochaines élections européennes, eh bien surprise, il n'y avait pas l'option sans avis ou ne se prononce pas. Donc concrètement, on demande aux gens d'avoir un avis sur des élections qui auront lieu 7 mois plus tard, et pour un scrutin où personne ne se déplace en plus. Les élections européennes, c'est en gros 40% de participation, soit plus ou moins une vaste blague. Donc c'est un non-sens, on accorde de l'importance à des pseudo-opinions de gens pour qui tout ça reste très flou.
Mais sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal ?
Ouais, c'est pas faux.
Et ouais, tous ces bémols sont gommés dans le sondage. On garde juste une donnée, fausse en plus, 24% des Français seraient prêts à voter FN. Donc ça fait peur, effectivement, mais ça n'a aucun sens. Cela dit, peu importe, la vérité est ailleurs. Les sondages, c'est une pub géante pour les médias. Dans le cas d'une autre, là, le résultat est tellement sensationnel que les radios, les télés, les sites internet, tout le monde l'a repris en citant de nouvelles ops qui en profitent pour augmenter ses ventes pour pas cher.
Bien joué, les gars.
Ouais ou pas, c'est assez pervers comme système. Les sondages qui sont à la base censés mesurer l'opinion, finissent par la fabriquer. Exemple, il y a quelques semaines, sondage choc qui sort dans le journal Le Monde, François Hollande n'aurait que 4% d'opinion favorable. Record interplanétaire d'impopularité. Le chiffre fait le tour de la presse, tout le monde le reprend, y compris les politiques.
Popularité de François Hollande, il obtient 4% seulement.
Vous parlez de popularité ?
Oui. 4% de satisfaits.
Le mot ne convient pas tout à fait. 4%, c'est plus de la popularité, c'est un désastre.
Du coup, le sondage devient un argument d'autorité et envoie un message à l'opinion. Ouais, avec ce chiffre, Hollande a touché le fond. C'est un gros nulos, comme ne disent pas les jeunes. Sauf que présenté comme ça, l'info est mensongère. Le sondage proposait aux gens l'option ni satisfait, ni insatisfait. Option qui a été choisie par 26% des sondés. Donc si on joue le jeu, un Français sur 4 ne sait pas quoi penser de Hollande. Et ça change la donne. Parce que dans le lot des indécis, il doit y en avoir qui pourraient le soutenir s'ils n'avaient pas le choix. Donc statistiquement, on en revient au score habituel de popularité d'Hollande, 13-15%. Autrement dit, le sondage présenté par les médias n'est pas du tout une info. Et pourtant, ça a marqué l'opinion, à tort. En résumé, il faut prendre des sondages pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une tentative d'estimation des tendances, jamais neutre ni vraiment objective, et souvent caricaturée par les médias. En gros, les sondages, c'est pas la Bible. D'ailleurs, on se quitte avec un dernier exemple qui permet de bien prendre du recul. Une grande étude sur l'existence de Dieu, faite par un institut très sérieux américain en 2011. Si Dieu existe, approuvez-vous ce qu'il fait. 50% trouvent que le Créateur se débrouille bien dans sa gestion des catastrophes naturelles. 56% considèrent qu'il traite bien les animaux. Et 71% apprécient la manière dont il a créé le monde. Voilà.
Et voilà, donc c'était le dernier épisode de Fast and Curious sur les sondages, enfin l'avant-dernier épisode.
Il faut noter le petit hommage à Alain Juppé quand même dans la vidéo, qui se moquait des sondages de François Hollande et à l'époque où lui caracolait en tête. Et donc voilà, ça permet de relativiser un peu le poids des sondages d'opinion.
Voilà, puisqu'à ce moment-là, il était donné quand même en tête de la primaire.
Et aussi de la présidentielle finalement.
Carrément.
Il est président.
Voilà, alors donc c'est vrai que je dirais ces derniers temps on a eu pas mal de surprises. Est-ce que en préparant cette chronique, t'as pu creuser la question, par exemple, sur le Brexit ou sur Trump? Comment se fait-il que les sondages n'avaient pas du tout prévu, alors pas totalement en tout cas?
Je pense que ça. Alors Antonin a des choses à dire là-dessus. Il en parlera tout à l'heure, notamment sur Trump. Ce qui est intéressant et ce qui a concentré mon attention, moi, c'est justement la présentation par les médias des sondages. Parce que c'est une chose déjà que les sondages ne soient pas une science exacte et qu'il y ait des biais statistiques et qu'il y ait un certain nombre de choses contestables. C'en est une autre que les médias, eux, les présentent comme des infos certaines. Et c'est en tant que journaliste, c'est ce qui m'a le plus intéressé, c'est de voir comment les médias s'en servaient pour les présenter de manière caricaturale, c'est-à-dire qu'ils rajoutent de l'incertitude à l'incertitude finalement. Et c'est ce qui s'est passé pour Trump, notamment indépendamment des biais statistiques dont va parler Antonin, c'est que les médias se sont engouffrés dans cette brèche d'ultra-domination d'Hillary Clinton dans les sondages, etc., pour imposer une norme, pour imposer un candidat. Et bah, y a une réaction assez logique, finalement, d'une certaine frange aussi de la population qui a décidé d'aller contre cette... voix dominante. Et il y a quelque chose d'assez intéressant que les sociologues et les analystes observent, c'est ce qu'on appelle maintenant le vote dit contrariant, c'est-à-dire aller à l'encontre des sondages dominants. En fait, il y a de plus en plus de minorités statistiques qui cherchent presque par pur comme un enfant qui cherche à désobéir, qui veulent aller à l'encontre de ce qu'on leur présente automatiquement, voilà. Et ça joue une vraie part dans notamment l'élection de Trump, hein, cette idée du vote contrariant. Et aussi d'ailleurs dans l'élection à la primaire de la droite de François Fillon. C'est-à-dire qu'on a présenté pendant des mois un duel au second tour entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Et il y a eu une partie de l'électorat qui a opté pour le vote dit contrariant.
Alors le vote contrariant, et puis on sent aussi évidemment une certaine défiance de l'opinion vis-à-vis non seulement des sondages, mais du contexte politique en général. Alors ça explique pas tant le vote pour Fillon, mais plus pour le Brexit par exemple, ou bon, Trump évidemment. Alors en Autriche, il n'y a pas eu... heureusement, l'extrême droite n'est pas passée, mais pas de très loin non plus. Donc il y a aussi cette espèce de ras-le-bol de l'opinion qui est peut-être difficile à mesurer par les sondages, quoi.
Il y a un certain nombre de phénomènes, disons, Antonin.
Ouais, alors sur le Brexit, par exemple, il y a un peu des problèmes dès que... Enfin, en fait, c'est pas facile d'avoir des enquêtes d'opinion dans le cadre des référendums. Parce que sur la question des référendums, en gros, on a un peu une absence d'historique, déjà de fait. On a d'historique récent, j'entends. Et on pourrait avoir, si on avait un historique pour évaluer à peu près les taux de participation, déjà, ça serait plus simple. Et un autre problème, c'est qu'on n'a pas non plus de sondage de sortie des urnes, après les référendums, en général. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas déterminer ce qui s'est vraiment passé, enfin, en termes de participation par rapport à structure démographique générale, quoi.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sondage sorti des urnes
En tout cas, en Angleterre, de fait, il n'y en a pas, quoi.
D'accord.
Bah, il me semble qu'on en fait pour la présidentielle en France.
On en fait pour les élections.
Ouais. Et donc, ouais, en Angleterre, en gros, il y a ce problème-là, quoi, qui s'est posé. Et donc le scepticisme en Angleterre envers les sondeurs est toujours demeuré très élevé depuis notamment les élections de 2015, enfin dans le cadre du Brexit, donc je parle pour la population anglaise, depuis les élections de 2015. Et en gros, bah, si vous vous en souvenez, il y a eu un énorme échec, un backlash comme ils disent, un échec en gros des enquêtes d'opinion qui n'avaient pas réussi à évaluer l'ampleur de la victoire des conservateurs, en gros. Donc ça va un peu dans le même sens que Trump, apparemment il y avait tout un... Bon, en tout cas, il y avait une incapacité à le voir, ou une volonté politique de le cacher, je ne sais pas, mais je pense que c'est plutôt qu'il y avait une incapacité à l'évaluer. Et les sondeurs ont toujours fait savoir qu'ils avaient apporté, en gros, des améliorations à leur méthode, etc., pour le Brexit. Mais bon, vu que après les élections de 2015, le Brexit devait être leur nouveau grand test, ils sont lamentablement plantés, encore une fois. Et, alors, il y a eu certains instituts qui ne sont pas trop plantés, mais très peu. Alors, j'ai pas le nombre exact d'instituts qui ont réussi, mais certains avaient vu un peu qu'il y avait peut-être quelque chose sur le Brexit qui allait se passer, mais c'était vraiment dans les derniers jours avant le référendum. Et voilà, donc en gros, oui, dans le cadre du Brexit, c'était vraiment. C'était pas évident, oui, parce que dans le cadre d'un référendum national, on n'a pas trop de moyens. Et il y a sûrement un biais politique qui intervient également, quoi.
Ouais.
Et pour poursuivre, justement, au niveau de la primaire de la droite, on s'est rendu compte que c'était très très difficile pour les sondeurs, et a fortiori du coup pour les médias de présenter ces sondages-là aussi, de définir, de créer des tendances, parce qu'il n'y avait jamais eu de primaire de la droite. Donc comment on évalue, généralement les sondages se font aussi d'après des habitudes passées de vote, comment on évalue les intentions de vote de quelqu'un, comment même la plupart des gens ne savaient même pas s'ils allaient aller voter le lendemain pour l'élection, donc... Comment on évalue, et ça a été bien prouvé, hein, sur les 27 sondages qu'il y a eu, c'est ce que je dis dans la vidéo, sur les 27 sondages qu'il y a eu en 3 mois sur les intentions de vote au premier tour, François Fillon n'a jamais été donné meilleur que troisième. Donc c'est très très difficile aussi dans certains contextes, et c'est le cas pour l'élection de Trump. Trump, c'était quelqu'un qui ne s'était jamais présenté devant le suffrage, donc on n'avait aucune référence pour sur lesquelles se baser, et voilà, ça donne lieu à des véritables erreurs statistiques.
Oui, Paul.
Oui, parce que ce qui est compliqué aussi, c'est a priori on pourrait se dire il suffit de demander à un échantillon représentatif de la population de dire leur avis, et logiquement ça devrait correspondre au résultat final à peu près. Or, en fait, il faut d'abord sélectionner un échantillon de gens qui vont aller voter, en l'occurrence, puisque ça sert à rien de demander à des gens qui vont pas aller à la primaire à qui ils choisiraient s'ils allaient à la primaire. Donc ça, c'est le premier truc un peu compliqué. Et ensuite, en général, les sondeurs font des redressements, c'est-à-dire que ils corrigent ce qui a été déclaré par les sondés, de façon à ce que ça corresponde à la réalité en fonction des décalages qu'il y avait eu dans le passé. Donc le truc le plus emblématique, c'est le vote FN sur les dernières élections, où à chaque fois, en fait, les sondeurs observaient un décalage entre ce que déclaraient les gens et ce que les gens votaient vraiment, donc a priori parce que les gens assumaient pas de dire qu'ils allaient voter FN à la présidentielle. Ce qui fait qu'en 2002, le FN était complètement sous-estimé dans les sondages. Alors en 2007, les sondeurs se sont dit « bon, on va corriger dans l'autre sens ». Et donc là, le FN a été complètement surestimé dans les sondages. Alors du coup, en 2012, ils ont recorrigé en surestimant. Et là, il était encore sous-estimé de 2,5 points. Donc comme quoi, en fait, c'est pas si facile.
Il y a toujours, pour rebondir sur ce que dit Paul, il y a toujours aussi un rapport entre le sondé et le sondeur, et qui se base sur justement l'état des sondages actuels. Typiquement pour Trump, quand un sondeur interview un sondé, qui aurait peut-être envie de voter Trump, il voit bien que, par exemple, si c'était au mois d'août, il voit très bien que Trump est largué dans les sondages, que Hillary Clinton surdomine, et c'est peut-être difficile pour la personne qui est sondée de dire « oui, je vais voter Trump », parce que ça va vraiment à contre-courant. Donc, les sondages influent en fait en permanence sur l'opinion publique, sur tous les plans.
Alors, il y a ça, et puis il y a la manière dont les questions sont posées. Alors pas tellement pour les intentions de vote, mais y a pas mal d'exemples où la formulation de la question dans les sondages sur la sécurité ou l'insécurité, etc., la formulation de la question peut influer. Oui, Paul, tu voulais.
J'ai un ou deux exemples là-dessus.
Ouais.
Alors bien sûr, il y a des trucs un peu évidents, du genre si vous formulez une question avec des termes qui sont flous, évidemment les gens, chaque sondé va interpréter chaque terme à sa façon. Si la question est longue et complexe, vous aurez beaucoup plus de gens qui vont en fait ne pas se prononcer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vraiment d'avis et ils n'auront pas confiance dans leur réponse. Mais après, si vous formulez une question de manière un peu péjorative ou à l'inverse méliorative, vous allez évidemment influer sur la réponse. Mais après, il y a des trucs qui sont beaucoup moins intuitifs. Du genre, les gens sont, quelle que soit la question, plus enclins à répondre oui que non. Donc c'est-à-dire, si vous demandez à des gens, il y a eu un test comme ça, pensez-vous que les États-Unis devraient interdire les discours publics contre la démocratie ? Donc 54% des gens sont pour interdire. Pensez-vous que les États-Unis devraient autoriser les discours publics contre la démocratie ? 75% des gens sont pour ne pas autoriser. Donc, c'est-à-dire que soit ils sont 54% pour interdire, soit ils sont 75% pour ne pas autoriser, ce qui est la même chose pourtant.
Donc on est plutôt pour, on est toujours en fait, plutôt dans le oui, quoi.
Les gens préfèrent dire oui, et les gens aussi, suivant la formulation, par exemple, là, ils préfèrent ne pas autoriser parce que c'est plus modéré et moins engageant que interdire. Vous voyez, ou bien il y avait eu 3 sondages qui avaient été faits au sujet du bombardement de la Libye par l'armée américaine en 1986. Et suivant que la formulation était abstraite ou très concrète en décrivant les bombardements, les villes touchées, etc., on avait 60% d'assentiment si on parlait uniquement de l'action américaine contre Kadhafi. Et en revanche, que 40% d'assentiment quand on citait bien les villes bombardées et qu'on les sondés visualisaient l'horreur de la guerre, quoi.
Ouais, Ismaïl.
Et justement, ce qui est fascinant en fait avec ce nouveau régime d'opinion, le régime des sondages, là, ce que j'appelais la sondocratie, c'est qu'on a un renversement total de la notion d'opinion publique, qui est une notion qui a été inventée au XVIIIe siècle comme arme de la raison contre la monarchie, contre l'autorité monarchique et cléricale et contre les préjugés finalement. La raison, c'était ce qui s'opposait au préjugé, c'est quand on avait, et l'opinion, c'était quand on avait le temps de penser. Et en fait, maintenant, avec l'intense production sondagière, fait qu'on a un renversement de tout ça, on fait plus du tout appel à la raison, puisque, en fait, les gens qui sont sondés n'ont plus le temps vraiment de fonder leurs opinions. Ils ont plus le temps de mûrir tout ça. Et on est dans le cliché, en fait. On est dans l'immédiat, dans donner un avis rapide sur quelque chose. Et c'est un total renversement de ce qu'était l'opinion au départ. L'opinion, c'était penser par soi-même, essayer de réfléchir. Et là, on arrive à une fragilité des opinions terrible.
Et comme tu faisais référence tout à l'heure, en fait, le sondage devient c'est plus uniquement quelque chose qui va étayer un article dans un journal, mais ça va être le sujet de l'article, quoi. C'est le dossier sur le sondage. Alors, quoi.
Non seulement c'est ça, effectivement, et plus grave à mon sens encore, c'est dans un certain nombre d'émissions télé qu'on peut tous regarder, des émissions plutôt sérieuses. J'ai cité par exemple C'est dans l'air sur France 5, si je me trompe. Bref, un certain nombre d'émissions comme ça où les sondeurs sont devenus les experts invités autour de la table. Des commentateurs, c'est devenu des commentateurs politiques. Alors qu'au départ, ce sont censés être des pures analyses derrière un bureau qui peuvent donner quelques informations que des journalistes vont reprendre ou pas. Et là, ce sont devenus presque des donneurs de leçons. Quoi.
Il est 8h36 sur Aligre FM, on est dans Voix contre Oreille. On poursuit sur les sondages, mais avant ça, petite pause. Je vous ai préparé pour la dernière émission une petite surprise. Allez, pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer.
Je me réveille avec entrain. Je branche ma cafetière électrique, je me rue dans le salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je sonne. J'habite au Han, la rue des douches, y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit: vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti. Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit: écroule-toi, donne-moi du nougat. Écroule-toi, donne-moi du nougat. Je dis: je vais vous en chercher. C'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je sens ce pas. J'en prie la main. Chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire. Je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit: alors t'as fait quoi? Ben je lui ai donné le nougat. Là-dessus je vais me faire un pétard et partir pour monter Lima. Elle me fait: je viens avec toi. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux. Moi aussi je veux du nougat.
Voilà, voix contre oreille, on est ensemble jusqu'à 9h, 9h10. On est avec Antonin.
Et Brigitte.
Oh. Alors c'était Brigitte Fontaine.
Fantastique. Hein,
c'est coquin ce matin.
Très coquin.
Voilà, avec donc Antonin, Paul et Ismaël, donc pour Fast and Curious. Paul, tu nous as préparé un petit topo sur un peu l'usage des sondages ou le mésusage des sondages à travers les âges.
Oui, oui,
beaucoup d'âges.
Très très rapide, hein. Juste pour dire que au départ, les sondages d'opinion, ça a commencé comme sondage tout court, mais disons que sondage pas politique, quoi. C'est des enquêtes d'opinion marketing pour aux États-Unis, où les grandes boîtes voulaient sonder leur marché. C'était des études de marché, quoi. Et à un moment, en fait, ces entreprises ont commencé à faire des enquêtes d'opinion dans le domaine de la politique. Mais encore aujourd'hui, en fait, pour l'immense majorité des instituts de sondage, les enquêtes d'opinion politique, c'est même pas 10% de leur chiffre d'affaires. En fait, l'essentiel, c'est des entreprises qui leur commandent des sondages ou des enquêtes d'opinion et d'études de marché qui sont pas publiées et qui servent aux entreprises simplement pour sonder le marché et savoir comment répondre au mieux aux demandes et aux besoins des consommateurs. Alors, les premiers sondages d'opinion politique, bah, du coup, c'était dans les années 30, aux États-Unis, avec un journaliste, monsieur Gallup, qui en 1936 crée l'American Institute of Public Opinion, à l'occasion de l'élection présidentielle. Et donc, là, pour la première fois, des sondages d'opinion sont publiés dans les journaux, à l'annonce de l'élection. Et deux ans plus tard, en France, l'IFOP est créé et prend la suite de l'American Institute of Public Opinion. Et il conduit la première enquête d'opinion sur « Faut-il mourir pour Danzig ?» avec des sondages qui sont publiés en juin, juillet et août 1939. Avant que, en fait, la publication de ces sondages soit interdite par la censure. Et après, tout au long du XXe siècle, l'utilisation des sondages a augmenté progressivement. Il passe de 111 sondages électoraux en 1981 à 293 pour la présidentielle de 2007. Après, j'ai pas de chiffres plus récents, mais il semblerait que ça continue à augmenter. Maintenant, on a des sondages qui sont à un rythme plus que hebdomadaire. Et c'est d'autant plus facile depuis qu'il y a Internet, puisque ça a vachement facilité, ça coûte beaucoup moins cher. Sans parler même des pseudo-sondages pas vraiment officiels, mais qui sont faits sur plein de sites, du genre sur le site du Figaro, très souvent, on demande aux lecteurs de dire qu'est-ce que vous pensez de ci ou ça, réponse oui-non, enfin est-ce que vous êtes pour que machin se présente. Et donc, en fait, on a l'habitude maintenant d'être sondé et de demander l'avis aux gens systématiquement, surtout. Alors après, ces sondages, ça a peut-être ça biaise peut-être un petit peu la démocratie. C'est pourquoi l'État a mis son nez dedans pour les réguler un petit peu, seulement un petit peu, hein. Puisqu'en 1977, il y a eu une loi qui a réglementé la diffusion des sondages d'opinion en période électorale, et qui a aussi créé une autorité de régulation, la Commission des sondages, qui donc vérifie que les sondages ne sont pas publiés la veille et le jour du scrutin. Avant, c'était la semaine précédant le scrutin, mais depuis 2002, on a ramené ça à un jour, donc la veille et le jour du scrutin. Et cette commission vérifie la bonne tenue de ces sondages électoraux en vérifiant que la méthode statistique est correcte et qu'il y a bien une notice explicative qui indique les marges d'erreur. Marges d'erreur que d'ailleurs, en fait, on oublie bien souvent parce qu'on a, comme disait Ismaël, c'est un peu comme l'horoscope, on a un peu envie d'y croire quand même. Et donc, quand il y a un candidat à 20%, un 19 et un 18, on a quand même envie de croire que ça veut vraiment dire quelque chose. Alors qu'en fait, bien souvent, ça veut pas dire grand chose. Puisqu'on est dans la fameuse marge d'erreur. Voilà pour le cours historique.
Ok, merci Paul.
Et ce que disait Paul, qui est très intéressant, c'est que effectivement les sondages d'opinion représentent, alors tu as dit 10%, même parfois pour certains instituts, c'est même 1% du chiffre d'affaires global. Donc c'est vraiment pas le cœur de leur activité, mais preuve que les sondages prennent de plus en plus de place dans les médias, il y a des instituts de sondage qui sont maintenant uniquement destiné à la production de sondages pour les médias. Donc on a un renversement, preuve qu'il y a une vraie demande aussi de la part de la presse, et qu'on est dans presque une folie, hein, sondagière de production, parce que c'est même plus qu'un par semaine, c'est un par jour finalement, dans n'importe quel quotidien, etc. Et on a des instituts de sondage qui est très particulier du point de vue du modèle économique, et ce qui ne s'était jamais fait auparavant, qui sont destinés qu'aux médias. Donc voilà, donc ils arrivent à fournir tellement qu'ils peuvent être rentables, rien qu'avec les médias.
Et donc finalement, pour un hebdo, c'est un moyen de faire un dossier à un coût finalement pas si élevé que ça. On commande un sondage et puis ça, voilà, finalement le dossier c'est le sondage quoi.
Et en plus, la nouvelle mode maintenant, c'est que les sondages se font en partenariat avec des grandes marques, alors qui payent un peu pour la réalisation d'un sondage et qui du coup accolent le nom de leur marque au sondage, ce qui leur fait de la pub gratuite pour la marque. Je vais citer n'importe quoi, par exemple les pains de mie Harris par exemple vont peut-être financer un sondage politique, leur nom va être accolé dans tous les médias quand on va le citer, ce sondage là pour le média ça coûte pas grand chose du coup à faire, et lui ça lui fait de la pub, et plus le sondage est sensationnel, plus il va être repris partout, plus on va citer le nom du média en question.
Attention, parce que du bonheur au matin, quand même. Non, ce qui est par contre un peu horrible, c'est qu'il y a aussi les médias qui sont dans une, enfin, les journaux écrits, qui sont dans une situation financière catastrophique aujourd'hui. Donc c'est aussi ça, ils sont prêts, j'ai l'impression, des fois, certains, à, s'ils ont un truc qui va vendre, ils vont vendre, quoi. Il faut harponner le lecteur, il faut absolument trouver du. Plus que dans cette compétition pour vendre et pour survivre, qui est un peu triste, hein, que ce soit, si on pense à François ou ces choses-là. On est dans cette survie absolue, cette compétition darwinienne pour essayer de vendre. Bon, bah, ça peut laisser la porte ouverte à ce genre de comportement, quoi. À ce genre de dossier.
Et donc, par exemple, on a vu avec, par exemple, Valls, il n'était même pas encore de candidat déclaré, qu'il y avait déjà des sondages sur est-ce qu'il était favori de la primaire de gauche.
Oui, on n'est plus dans l'information ou l'analyse, on est dans une
espèce de course. Ouais, Paul, tu voulais réagir par rapport à ça?
Après, ce qui est quand même à nuancer, c'est que les sondages, ça reste quand même intéressant. Enfin, je trouve. le problème, c'est qu'on en est tout le temps et qu'on commande des micro-évolutions d'un jour à l'autre sur des sujets. Parce que si on avait des sondages tous les 6 mois sur des sujets de fond pour voir un peu l'évolution, bah, justement, de l'opinion publique, si elle existe, sur des grands sujets, avec entre de l'analyse de fond, ça pourrait être intéressant d'avoir une photo comme ça tous les 6 mois ou tous les ans. Le seul truc, c'est que regarder l'évolution d'un jour à l'autre du score d'Alain Juppé potentiel dans 6 mois à la primaire, c'est un peu comme les gens qui vont regarder tous les jours les variations de la bourse, plutôt que de regarder des analyses de fond sur les grandes tendances macroéconomiques. C'est vraiment avoir le nez dans le guidon et ça permet absolument pas de comprendre les grandes tendances et les...
Ouais. Voilà, tout à fait. Et alors moi, je voulais vous poser une autre question sur un autre type de sondage, parce qu'on on parle beaucoup des sondages sur les intentions de vote pour tel et tel candidat, mais il y a aussi les sondages sur, par exemple, quelles sont les préoccupations des Français. Et alors là, on les fait prioriser, enfin donner des priorités entre plein de choses super importantes, quoi, la sécurité, l'emploi, la santé, et alors quel sens donner à ça, puisque finalement tout est important, quoi.
J'ai pas trop d'infos là-dessus, mais c'est vrai que ça fait vraiment puis, s'il vous plaît, construisez un programme pour moi.
Oui, non, ça fait vraiment ça, quoi. Puis, on demande... moi ça m'a toujours semblé aberrant ces questions où il s'agit de donner une hiérarchie entre un ensemble de choses qui sont toutes importantes. On n'a pas à demander à choisir entre la santé, l'emploi et la sécurité, par exemple, quoi, et autres.
Enfin, d'ailleurs, il y a quand même une certaine constante quand on regarde ces sondages-là, parce que l'immense majorité du temps, c'est le chômage et l'économie qui arrivent en un. Et après, derrière, toutes les autres questions qui sont dont le rang varie, même si, bon, récemment, il y a eu plus la sécurité, le terrorisme, bah, logiquement, en fonction de l'actualité, mais sinon... ça reste assez permanent. Mais après, typiquement, ce genre de sondage-là, il y a ce biais énorme de chaque sondé met ce qu'il veut derrière la catégorie. C'est-à-dire que vous dites, je sais pas moi, la santé, qu'est-ce que ça veut dire, la santé, chacun va penser aux politiques qu'il veut, quoi. Ou derrière l'économie, vous allez avoir des gens qui vont dire, bah oui, il faut réduire les taxes sur les entreprises, et d'autres qui vont dire, ah bah, il faut faire de l'interventionnisme économique, enfin.
Ouais, tout à fait. Antonin, oui. Tu nous.
Alors moi, il y avait un
passe
truc
la que... parole ou.
Ouais, il y avait un truc que je trouvais intéressant, c'est pourquoi est-ce que dans la question pourquoi ils se plantent, pourquoi est-ce qu'ils se plantent souvent, il y a eu un point qui est intéressant qui a été fait. Ce que j'ai vu quand j'avais suivi la campagne de Trump enfin pas la campagne de Trump, mais la campagne américaine en général, c'était assez drôle de voir que, bah, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, tout le monde, enfin personne ne s'y attendait vraiment, quoi. Les gens avaient vraiment, vraiment... Enfin, quand on sait qu'on a 6 mois de sondage perdant, bon, bah, les gens commencent à y croire, parce qu'on fait quand même confiance un petit peu, parce que les sondages qui soient plutôt orientés conservateurs, dans les journaux conservateurs ou de gauche, étaient tous, dans les tous Trump plutôt, plutôt perdant. Et il y a eu un des problèmes principaux qu'il y a eu, c'est un problème d'échantillonnage, parce que les sondages à l'échelle nationale ont du mal à voir, enfin, à traduire ce qui va se passer au niveau du collège électoral. Parce que vu que les États-Unis sont pas, enfin, ont pas une élection directe en fonction du nombre de voix,
ouais.
C'est ce qu'on dit là, Hillary Clinton avait en fait plus de voix que Trump. Bah, vu qu'ils n'ont pas, en gros, dans leur sondage, ils n'ont pas une parfaite représentation État par État, ça peut poser des problèmes à ce niveau-là au niveau des grands électeurs. Donc un truc qui s'est passé, c'est qu'apparemment depuis, oui, ça va faire 50 ans, qu'il y a de plus en plus, on observe de plus en plus, en tout cas dans... Ouais, un écart de plus en plus grand entre le vote populaire et enfin le popular vote, comme ils disent, c'est le total des voix, quoi, et ce qui se passe vraiment au niveau des élections. Et donc c'est de plus en plus dur pour les sondeurs et les sondages, donc, d'arriver à avoir quelque chose. Donc ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils agrègent en fait des données par État et par grands électeurs. Mais le problème, c'est que ça, quand cette méthode va souffrir beaucoup de d'un manque de données disponibles. Et de données auxquelles on peut faire confiance. Par exemple, bah, y a plein de sondages qui, au niveau soit local, soit au niveau de l'État, bah, vont avoir une différence de qualité. Par exemple, il y aura des États où les sondages vont être faits avec des techniques plus modernes, des techniques des techniques différentes, même tout simplement, qu'elles soient modernes ou pas. Et en gros, plus on tombe dans des États plus petits, dans des zones plus petites, il y aura des méthodes de plus en plus non orthodoxes. Pour essayer d'avoir des échantillons représentatifs. Et bah, quand on fait ça, si on a... Enfin, en gros, souvent, dans les méthodes non orthodoxes, ce qui va intervenir, c'est aussi comment est-ce qu'on met différents poids sur différentes sous-populations. Et bah, utiliser, par exemple... on va utiliser, enfin, plus les petites zones, en gros, sont sous-représentées, plus on va mettre des poids plus gros. Bah, plus on fait ça, plus on a des risques d'avoir des biais, en gros, et... En gros, le pouvoir statistique, ça va être important, mais toute mauvaise représentation dans les sous-populations va pouvoir amener, en gros, des agrégats qui vont n'avoir aucun sens, quoi. Et ça a posé problème. Un des problèmes techniques aussi qu'il y a eu, qui est assez intéressant, c'est que, donc, on en a parlé, un des trucs importants, c'est d'avoir une sélection aléatoire de citoyens dans un pays. Genre, avant, ce qu'on faisait, c'est on prend le bottin, quoi. On prend les pages blanches et on prend des gens et on appelle chez eux. Donc là, ce dont je vais parler, c'était plutôt une étude américaine, mais je pense que ça s'applique au cas français également. Bah, on a commencé de plus en plus à appeler les gens sur leur téléphone portable. Avant qu'il y ait le développement de tous les téléphones portables, donc disons, je sais pas, depuis 2000, quoi, j'imagine, y avait tout le monde, chaque individu dans le pays avait un téléphone fixe chez soi. Et donc c'était approximativement aléatoire, quoi. On était sûr que si on prenait des gens dans la liste, on avait une représentation. On avait une bonne proba d'avoir une représentativité correcte. Mais maintenant, donc en gros, on était quasi sûr d'avoir des... Vu qu'en plus, on appelait les gens chez eux, si on appelait aux bonnes heures, on pouvait essayer de rappeler, mais on assurait aussi des bons taux de réponse. Donc en gros, on pouvait aussi contrôler un biais assez important, qui était le biais de non-réponse. Ça, c'était bien, parce que on pouvait espérer qu'en prenant aussi des heures aléatoires d'appel, on pouvait à peu près contrôler ça. Donc par contre, ce qui s'est passé, c'est que depuis l'an 2000, il y a eu le développement des téléphones et des téléphones mobiles, on a commencé à utiliser ça de plus en plus, mais il y a des énormes différences démographiques dans l'usage des téléphones portables. Et donc ça, par exemple, ça va rentrer, faut que ça rentre en compte. Donc en gros, que ce soit dans l'adoption des téléphones portables au cours des années, par rapport à un échantillon aléatoire de ligne fixe, là, ça va devenir de plus en plus inadéquat et on va galérer pas mal pour trouver des échantillons... échantillons corrects en termes de biais. Et donc après, il y a pas mal de gens d'instituts qui essaient d'avoir des approches hybrides. Mais bon, un des problèmes principaux, c'est que le numéro de téléphone portable, il n'y a pas de liste publique, donc on n'a pas accès à tout le monde. Donc ça rend très dur parce que l'info n'est pas disponible si facilement. Je ne sais pas trop quelles infos on a ou quel numéro, quelle liste on peut avoir, mais ça va être des listes qui vont dans tous les cas avoir des biais qu'on ne pourra pas contrôler parce qu'on n'est même pas sûr de savoir quels biais sont. Bah, si on a juste une compagnie, par exemple, ça peut être problématique. Typiquement, si une compagnie a des marchés dans tout l'ouest de la France, mais pas dans l'est, bon, Je sais pas du tout, mais s'il y a des billets liés à la compagnie, par exemple, ça peut être problématique. Donc en gros, ce qu'on a essayé, ce qui a été essayé pour compenser ça, c'est de faire des analyses en ligne. Donc on va essayer de faire ça pour essayer de... déjà c'est moins cher, ça c'est clair. On va essayer de compenser ce problème de téléphone portable en faisant des analyses en ligne. Mais ça va être la même chose, on va avoir d'autres billets. On galère toujours pour faire des échantillons représentatifs. Et plus la technologie avance, plus on commence à avoir du mal à identifier les méthodes, des méthodes vraiment avec des billets contrôlables, quoi.
Voilà, parce que en ligne, forcément, c'est ce que disait Ismaël dans sa chronique. T'as personne en face de toi, donc tu peux plus ou moins, peut-être, tu peux plus exprimer des opinions extrêmes, c'est ça?
Alors, il y a plusieurs biais effectivement sur les sondages en ligne. Le premier, c'est que derrière son ordinateur, on n'est plus la même personne qu'en vrai. On le constate sur tous les forums, l'agressivité qu'il peut y avoir sur Internet parfois. On a tendance à être un peu plus exacerbé dans nos opinions sur Internet. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième, c'est aussi que qui on arrive à joindre sur Internet, souvent c'est des gens qui ont déjà laissé leurs adresses mail à un certain nombre de sites qui se déclarent prêts à être contactés, donc qui potentiellement sont parfois des motivations financières, parce que certains sondages sont rémunérés. Donc là, faut évaluer quelle est la part d'intérêt des gens là-dedans. Et puis, deuxièmement, c'est aussi des gens qui sont potentiellement plus intéressés aussi par la politique, qui ont envie de donner leur avis. Et c'est pas le cas de tout le monde. On peut aller voter sans même avoir d'avis parfois. Et ça, faut le prendre en compte. Donc Internet, c'est très difficile de créer ces variables de redressement aussi pour réajuster les sondages.
Oui, juste quand tu dis que sur Internet on n'est pas le même et qu'on est un peu plus extrême que dans la réalité, est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? Est-ce que sur Internet on n'est pas aussi extrême qu'on l'est tout seul dans l'isoloir quand il n'y a personne pour nous juger? Et finalement quand il y a un sondeur qui nous appelle au téléphone, là on essaie d'avoir un discours plus policé et de rentrer dans la norme.
Alors effectivement les sondeurs ont constaté que, par exemple, sur Internet il était plus facile de mieux évaluer le vote extrême, le vote Front National par exemple. C'est vrai. Mais alors, d'une manière beaucoup plus large, ils se sont aussi rendus compte par leurs études statistiques, donc là on est obligé aussi de leur faire confiance à eux, mais ils se sont rendus compte que malgré tout, malgré ça, malgré ce qu'on dit là, il y avait quand même des votes qui étaient plus exacerbés que dans la réalité.
D'accord,
sur
ouais.
Internet.
Petite pause et puis on se retrouve pour conclure. Voilà, on se retrouve dans Voix contre oreille sur LYFM. On parle aujourd'hui des sondages et de leur influence sur la vie démocratique. Antonin, tu voulais rajouter un point?
Alors oui, j'ai vu, c'était pour continuer, donc pour finir un peu sur ce que je racontais tout à l'heure. Donc il y a eu deux chocs technologiques récents sur les sondages. C'est un, la diffusion des téléphones portables, deux, Internet. Et donc, c'est de plus en plus difficile à gérer parce que c'est difficile de faire des échantillons. Ensuite, sur Internet, les gens s'expriment trop. On sait pas, beaucoup de gens s'expriment beaucoup plus dans certaines franges de la population que d'autres. Et donc, en gros, il y a ce qui pourrait être intéressant et ce qu'ont fait certains informaticiens, certaines sociétés, c'est d'étudier, grâce à Internet, justement, enfin, le prendre un peu dans un autre sens, d'étudier l'expression spontanée. Essayer d'analyser l'expression spontanée qui peut avoir lieu sur Internet, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur Facebook, etc., Twitter. Là, j'ai commencé à mettre des mots, genre Facebook, Twitter, l'importance des réseaux sociaux. Non, c'est pas du bullshit. Vraiment étudier les données qui viennent de là, parce que je déteste quand dans une chronique, quelqu'un commence à dire « Oh, ça, c'est l'importance des réseaux sociaux ». On danse ça tout le temps, c'est insupportable.
Mais en tout cas, voir un peu les préoccupations des gens, de quoi ils parlent,
qu'est-ce qu'il y a. En fait, non, c'est même pas voir ça, même pas analyser ça. Juste prendre les données très brutes, même pas regarder ce qu'il y a dedans. Et en gros, ce qu'on fait, alors, je vais vous donner un exemple, c'est c'est toujours du big data, alors encore un mot-clé bien vendeur. dans le but, en gros, de trouver une méthode avec un faible biais, peut-être. Donc, il y a à Mumbai, il y a une société indienne qui a construit une intelligence artificielle, en gros, qui a pu prédire correctement les élections, enfin, les résultats des trois dernières élections américaines, qui avait même...
dont Trump.
Dont Trump, oui. Donc, bien sûr, un mois avant Trump, eux, ils avaient dit, attendez, donc ça s'appelle Mog IA. Donc, ça a été développé par un gars qui s'appelle Sanjeev Rai et une start-up qui s'appelle Genic, en gros. Genic AI. Je sais pas trop comment on prononce tout ça, mais voilà. Une start-up indienne. Donc, en gros, ils ont pris 20 millions de données depuis des plateformes publiques du style Google, Facebook, Twitter, analyser l'info pour essayer de faire des prédictions. Pour l'instant, ça n'a jamais raté leur truc. Parce qu'il faut imaginer, même s'il y a plein de billets, plein de trucs, en fait, ce qu'ils expliquent, il peut se passer, il y a plein de choses là-dedans, mais quand on arrive à des choses, genre 20, 30, 40, 50 millions de choses, 50 millions d'expressions, d'infos, on peut voir des grandes tendances. On arrive à les analyser, il est possible. En tout cas, apparemment, c'est possible. Je dis, en fait, encore une fois, un gros peut-être. Mais bon. Ça a été créé en 2004, en gros, ils avaient trouvé les résultats pour les primaires démocrates, républicaines. Donc, en gros... Ouais, ce qu'ils racontent, c'est que depuis, en plus, 2012, ils prennent en compte maintenant les tweets, les vidéos live faites sur Facebook. Ils prennent de plus en plus de choses dans leur calcul. Et ce qu'ils avaient, donc, dans un article que j'ai lu, c'était intéressant, c'est un article de septembre, je crois, ou c'était fin septembre, début octobre, un truc comme ça. Ils avaient dit, mais si Trump perd, vraiment, pour nous, ça va vraiment être un énorme challenge sur les données, parce que ça sera la première fois en 12 ans, depuis qu'on a commencé à s'intéresser à ces données venues d'Internet, qu'on aura... un échec aussi cuisant de notre méthode, quoi. Il disait, je vois pas comment, vu que nous on voit que c'est Trump qui va s'en sortir, on voit pas comment ce serait possible. En tout cas, ça va vraiment remettre en cause notre modèle, mais ça m'étonnerait. C'est pas un modèle d'ailleurs, mais enfin, nos calculs, j'entends. Et alors que tous les sondages nationaux mettaient Clinton vraiment en avance, lui, il avait commencé à dire, monsieur Rai, que les démocrates devaient peut-être. Un peu faire amende et faire attention à ce qu'il disait, quoi. Donc il a toujours, dans l'interview, il a admis qu'il y avait toujours des limitations et que bien sûr que quand on voit qu'il y a des mots-clés qui reviennent, ça peut être critique de Donald Trump, ça peut être etc. Mais que apparemment, en gros, même si quelqu'un qui lance un tweet, ne veut pas dire qu'il a voté pour Trump, la tendance générale, en gros, a toujours donné des chiffres assez corrects. Il a toujours donc en gros, je sais pas si c'est une méthode qui peut se développer, mais apparemment, ce petit robot, cette petite intelligence artificielle, a des bons résultats. Et c'est intéressant parce que c'est des données, c'est pas des données où on demande aux gens de s'exprimer. On attend leur expression spontanée, en gros, et on voit, on finalise de tous ces trucs-là à une échelle assez énorme, et on voit un peu les tendances qui se développent.
Ok, et donc effectivement, on voit bien que là, on mesure des données beaucoup plus importantes que interroger 1000 personnes.
C'est ça, et moi ça m'avait titillé parce que j'avais vu cet article genre mi-octobre, je me suis vraiment dit, mais j'attends les élections, ça serait fantastique, après avoir lu cet article, si il gagne vraiment, je veux voir la suite de cette entreprise. Alors j'ai pas pu encore trouver d'article nouveau. Mais j'aurais été vraiment, je voyais tous les sondages, je commençais à être convaincu que Hillary elle est sûrement passée. Je me suis dit, non, mais ce serait vraiment... Si elle ne passe pas, je serais vraiment content de voir ce que devient cette entreprise pour voir un peu ce qui se passe.
Le boulot qu'ils font. Tout à fait.
Ça m'a vraiment titillé ma curiosité.
Nouveau manière de sonder l'opinion.
Oui, nouvelle manière. À voir, quoi.
Alors là aussi, les entreprises le font depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elles scannent, elles scrutent ce qui se dit sur elles, sur Internet, pour voir si voilà, les opinions positives, négatives, ce qu'on pense d'elles. Donc c'est une source d'information qui est déjà exploitée. Ouais. Par les entreprises. Alors, avant de donner la parole à Paul pour conclure, moi, je vous ai trouvé quand même un exemple de sondage qui peut donner lieu du coup à des conclusions assez délirantes. C'est relevé par Acrimed. Hein. donc, c'est dans le Figaro du 15 novembre qui titrait voilà, chômage, impôts, 50% des Français sont prêts à fuir la France. Et donc ils avaient demandé aux jeunes entre guillemets, mais de 18 à 34 ans, donc c'est déjà un large pour les jeunes, ils les avaient questionnés sur leur volonté de éventuellement s'expatrier, en mentionnant des causes telles que il y a trop de chômage, il y a trop d'impôts, et donc près de la moitié des gens s'est exprimé en disant bah oui, pourquoi pas. Et donc ça, on arrive au titre 50% des Français sont prêts à fuir la France, quoi.
Ça devrait plutôt être 50% des lecteurs du Figaro ont les moyens de s'expatrier.
Voilà. Non, mais alors ils ont peut-être pas interrogé que les lecteurs du Figaro, mais alors c'était un sondage commandé par le Figaro étudiant et France TV à Opinionway. Alors on peut espérer qu'Opinionway, ils sont professionnels, ils n'ont pas interrogé que les lecteurs du Figaro, mais effectivement ça dénote un certain type des préoccupations quand on songe à s'expatrier parce qu'on paye trop d'impôts, quoi. C'est sûr que donc en tout cas voilà, c'était un exemple pour montrer que ça peut mener un peu à tout et n'importe quoi. Ça veut pas dire que c'est jamais utile, évidemment. En tout état de cause, Ismaël, dans ta chronique, tu citais Acrimed comme une source de contre-information sur ces sujets-là.
Acrimed, qui est un site d'observation des médias et qui sont toujours très alertes sur les dérives de l'information qui arrive à tous, puisque le journaliste, c'est pas toujours un métier facile et il peut arriver de faire des erreurs, et ils sont toujours là pour veiller au grain. Leurs articles sont toujours passionnants et ils relèvent effectivement beaucoup en ce moment les problèmes des sondages.
Voilà. Et donc il y a aussi l'Observatoire des sondages, hein, qui est un site observatoiredessondages.org qui justement, bah, comme son nom l'indique, informe et critique les sondages. Voilà, et on avait déjà reçu Alain Garrigou, qui est le fondateur de cet observatoire ici, et on le recevra peut-être en janvier pour faire peut-être une autre émission sur le sujet avec lui. Paul.
Oui, petit aparté, on parlait d'Opinionway. En passant, c'était l'Institut de sondage qui était le principal concerné par l'affaire des sondages payés par l'Élysée en 2008. L'Élysée avait commandé et payé 35 sondages, dont 15 avaient été publiés dans la presse, et qui avaient coûté 400 000 euros à l'Élysée par l'intermédiaire d'un cabinet de conseil dirigé par Patrick Buisson. Voilà, en passant. Et c'était des sondages qui avaient été publiés dans Le Figaro et LCI.
C'est une des nombreuses casseroles de Sarkozy.
Et donc...
Oui, alors donc un petit mot de conclusion.
Oui, ben en fait on se rend compte que au-delà de tout ça, les sondages ont un véritable effet délétère sur la démocratie. D'abord parce qu'on a quand même un scrutin pour la présidentielle et pour la législative majoritaire à deux tours, ce qui fait que en fait on va tendance à avoir un vote utile, c'est-à-dire à voter pour des candidats qui ont une chance d'arriver au deuxième tour et de gagner. Or, sur quoi on se base pour savoir si les candidats ont une chance? Sur les sondages. Donc, c'est-à-dire que pour les petits candidats, il y a une marche énorme à franchir qui est arriver à convaincre des gens alors que vous êtes censé avoir aucune chance d'être élu. Donc ça déjà, si on avait un scrutin proportionnel, il y aurait beaucoup moins de problèmes parce qu'on pourrait voter pour un candidat qui va faire 1%, c'est pas grave, il représenterait quand même nos idées à l'Assemblée par exemple.
Oui, ça alors serait que, quand même une utilité quoi.
Alors que là non. Donc finalement le vote utile rend ultra puissant les sondages qui renforcent en fait un immobilisme et un règne des gros partis au pouvoir.
Et c'est même pire que ça parce que le sondage c'est eux qui définissent un peu le terrain de jeu, c'est-à-dire ouais. quels sont les candidats. Bon bah là ça y est, on a des sondages et les petits candidats, ils sont déjà marginalisés, quoi. Ils ont, comme tu dis, une marche infranchissable pour rentrer dans le jeu, quoi.
D'autant que les petits candidats, ils vont finalement n'avoir que 2 semaines pour essayer de convaincre, alors que qui sont les 2 semaines de la campagne officielle, juste les 2 semaines avant l'élection, où là, il y aura une égalité des temps d'antenne. C'est-à-dire les temps de parole et les temps de diffusion, de reportage ou autre sur les candidats. Et auparavant, donc bien sûr, la campagne, en réalité, elle ne dure pas que 2 semaines. Ça fait pendant des mois et des mois, on fait la campagne présidentielle. Et pendant ces mois et ces mois, il y a simplement un principe d'équité, entre guillemets, qui est garanti par le CSA, qui en fait va vérifier que les différents courants, les différents candidats, apparaissent dans une exposition médiatique qui est proportionnelle à leur représentativité, que le CSA juge en fonction des résultats qu'ils ont obtenus aux dernières élections, du nombre d'élus qu'a le parti ou le courant politique du candidat. Donc déjà, ça veut dire que donc les candidats des partis au pouvoir sont légitimes à avoir plus d'exposition médiatique et donc on part déjà avec de l'avance. Mais même récemment, là, le 5 avril dernier, on a ajouté comme critère les sondages comme indice de la représentativité des candidats. Ça veut dire que maintenant, c'est vraiment acté que les sondages influent directement sur le débat démocratique et donc que les candidats qui sont hauts dans les sondages, c'est tout à fait normal qu'ils apparaissent beaucoup plus dans les médias. Et donc, en fait, ils sont largement favorisés dans la course à la présidentielle. C'est là qu'on voit que les sondages ont des problèmes qui sont intrinsèques, mais aussi qui sont favorisés par les institutions, ce qui légitime la démarche d'écriture d'une nouvelle constitution défendue par l'Association pour une constituante.
Et voilà,
ah,
merci.
C'est bien amené.
Exactement. Ouais, Ismaël.
Non, mais pour conclure aussi, c'est vrai qu'on dit souvent que les sondages sont une photographie de l'opinion. C'est une expression souvent répétée par les sondeurs. Et il faut bien garder en tête, en fait, que le photographe, que la photographie, c'est toujours un art de la mise en scène et du cadrage. Et donc, voilà, faut faire attention que les sondages ne deviennent pas une fabrique de l'opinion.
Ok, beau mot de conclusion également. Antonin ?
Alors moi, je fais une petite conclusion sur l'association pour une constituante. Il y a eu pas mal, depuis quelques mois, il se passait pas mal de choses en termes de réunions publiques, de conférences. Alors André Bellon, notamment, a été à Bordeaux début décembre. Il y a eu des réunions, genre fin novembre, début décembre, au Cercle de Bourges. Et en janvier, la mission qu'on fera pour l'association va porter autour d'une conférence publique qui se passera à Montreuil au cours du mois de janvier. Et donc voilà, donc il se passe pas mal de choses, il y a beaucoup de débats, pas mal, de plus en plus de gens sont intéressés. Et donc l'association se porte bien et c'est les débats autour des questions démocratiques, du vote, etc. commencent à intéresser pas mal de gens qui en ont marre justement d'avoir l'impression que notre système démocratique est un peu mis à mal par de plus en plus de règles un peu qu'on commence à trop malmener, quoi.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Voilà. Jingle qui nous quitte jamais.
Un jingle qu'on a dans la tête. Ça veut dire qu'il est efficace. Eh bien, c'était notre dernière émission de l'année. Merci donc Antonin, merci Paul, merci Ismaël, d'avoir été là. De toute façon, on se retrouve en 2017 pour plein de nouvelles émissions, plein de nouveaux épisodes de Fast and Curious.
Fast Curious TV sur YouTube.
Voilà.
Placement de produit.
Bah oui, oui. Donc, Fast Curious TV, donc, avec la page Facebook et donc la chaîne YouTube. L'association pour une constituante, donc on a entendu le site. Oui. On fera une prochaine émission en janvier.
Oui, blague à part, essayez d'aller sur la page Facebook. Si vous pouvez aller sur la page Facebook de, alors soit de la Ligue, mais aussi de Fast and Curious, ça peut aider pas mal à diffuser. Ça peut, comme ça, vous pouvez le voir avec. Si vous mettez un petit, ça fait bizarre de dire ça, mais un petit like et comme ça, ça peut partager, ça peut donner donner envie à vos contacts, vos amis d'aller voir ce qui se passe.
Absolument.
Je valide ce message.
Donc là, la page Facebook de Fast and Curious, la page Facebook de Voix contre Oreille et la page Facebook d'Aligre FM. Voilà, de nos jours, c'est ça.
Oh là,
tout doit avoir sa page Facebook pour exister. Merci Adrien hein, qui était fidèle au poste chaque semaine en 2016 et on se retrouvera aussi en 2017 pour plein de nouvelles émissions. Merci à vous les auditeurs, hein, passez de bonnes fêtes, on se retrouve tous en 2017. À bonne fête Antonin, Paul, Ismaël.
Bonne fête à vous.